L'interview de la semaine.
Aider les entreprises et les collectivités à électrifier leur flotte de véhicules utilitaires et de tourisme, c'est la mission de The Blue Way. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Sébastien Pinault, cofondateur de The Blue Way, expert en verdissement de flotte d'entreprise. Bonjour Sébastien Pinault.
Bonjour Eric.
Vous êtes cofondateur de The Blue Way, une société dont la mission est d'aider les entreprises à renouveler leur flotte de véhicules par des véhicules électriques. Pouvez-vous nous présenter la société en quelques mots, date de création, nombre de salariés, implantation ?
Oui, certainement, avec plaisir. Donc, The Blue Way, effectivement, est une entreprise qui a pour mission d'accompagner les entreprises et les collectivités dans la décarbonation de leur flotte. The Blue Way fait partie d'une manière générale d'un groupement avec Odyssey et e-mobility expert qui nous permet également d'amplifier notre démarche en remontant jusqu'aux aspects de politique RSE, de mise en place de plans de mobilité et puis à l'autre extrême de la chaîne de déploiement d'infrastructures de recharge.
La société a été créée quand ?
Donc nous sommes actifs depuis fin 2019. Au total, The Blue Way, c'est 6 intervenants sur les dossiers que nous développons.
6 consultants ?
Oui, absolument. Donc, nous sommes actifs sur l'ensemble du périmètre français et même éventuellement au-delà, avec pour cible principalement des grandes entreprises, des grands groupes. En tout cas, c'est notre clientèle principale, mais également les PME, éventuellement les TPE. Nous avons développé une offre spécifique pour ces entreprises et puis les collectivités.
Quels sont les principaux défis que rencontrent les entreprises lors de la transition de leur flotte vers l'électrique ? Enfin, quand je dis défis, c'est un grand mot, mais les difficultés éventuellement ou les points de friction ?
Alors, ce qu'on voit essentiellement, ça se joue à deux niveaux. Le premier enjeu, c'est la compréhension des équipes dirigeantes et des opérationnels quant à la mobilité électrique, quant au potentiel qu'elle présente et quant aux réalités vraiment de sa mise en place. La deuxième, elle se situe au niveau des collaborateurs eux-mêmes, des utilisateurs. Et c'est vraiment une problématique de résistance au changement. Donc c'est vraiment sur ces deux enjeux qu'on va énormément travailler. Alors avec, la première chose, c'est de démontrer l'aptitude opérationnelle des véhicules électriques. Il y a énormément d'idées reçues et Eric, je crois que vous participez largement à effectivement les démystifier. Mais il y a une perception vis-à-vis des problématiques d'autonomie, de recharge qui, aujourd'hui, on le voit dans l'utilisation, n'a plus forcément lieu d'être. Néanmoins, il faut effectivement mettre les choses en situation, montrer que ça fonctionne, ça c'est le premier enjeu. Évidemment, on ne peut pas prétendre basculer des flottes de véhicules qui ont pour grande partie une utilisation professionnelle si ça a un impact significatif sur le quotidien des utilisateurs. La deuxième chose, c'est de démontrer qu'en fait, c'est une solution qui est intéressante économiquement parlant, puisque l'autre idée reçue, c'est que les véhicules électriques coûtent cher. C'est vrai sur le coût d'achat. Peut-être je pourrais vous en reparler un peu plus en détail après, mais finalement, on voit que ce sont des solutions qui sont très intéressantes d'un point de vue économique, si on change un petit peu la perspective. Et puis ensuite, c'est l'impact décarbonation qui est... Il y a beaucoup de désinformation à nouveau sur ce sujet-là. On lit à droite et à gauche que l'impact finalement serait éventuellement plus important, etc. C'est évidemment pas vrai, mais il convient surtout de chiffrer le bénéfice en termes de réduction de l'empreinte CO2 que ça présente pour l'entreprise.
Alors concrètement, vous allez voir une entreprise, vous leur dites quoi ? Vous leur dites, vous avez une flotte de voitures, vous devriez passer à l'électrique, et voilà comment vous allez faire, voilà comment vous pouvez faire, c'est ça ?
Absolument. La première chose, c'est vraiment étudier les usages, partir de la réalité du terrain, donc à quoi servent les véhicules qui sont aujourd'hui dans la flotte, comment les utilisateurs s'en servent au quotidien et quels sont leurs besoins de mobilité, les besoins de logistique, etc. D'accord ? Et puis sur cette base-là, du coup, remettre en place des solutions qui sont pas toujours le véhicule d'ailleurs. Parfois, on insiste aussi à passer sur d'autres types de mobilité, d'autres solutions logistiques, etc. qui parfois c'est la meilleure solution pour décarboner, et ça répond très souvent aussi à une volonté des utilisateurs. Sinon, bah, du coup, recalibrer les solutions en passant vers des solutions bas carbone, principalement l'électrique, hein, aujourd'hui, ça c'est très clair. Et du coup, en choisissant correctement les véhicules, en choisissant correctement les solutions pour la recharge, voilà, il faut reconstruire un écosystème autour de l'électrification.
Il n'y a pas actuellement une espèce de tropisme plutôt un peu forcé sur l'hybride en entreprise ? Est-ce que c'est facile d'inciter les dirigeants à aller vraiment vers l'électrique ? Est-ce qu'à ce moment-là, ils ne vous répondent pas « Non, mais c'est bon, on a électrifié notre flotte, on a que des hybrides ». C'est un peu ce qu'on entend, non ?
C'est beaucoup ce qu'on entend, je suis complètement d'accord. Ouais.
C'est peut-être même encore plus compliqué de convaincre un patron qui vient de passer sa flotte en hybride d'aller vraiment vers l'électrique plutôt que de passer directement du diesel à l'électrique.
De fait, on observe que la part des hybrides rechargeables, hybrides non rechargeables, est effectivement plus élevée que les électriques dans les ventes aux entreprises. C'est vrai que historiquement, sur l'électrification, les entreprises sont beaucoup tournées vers l'hybride rechargeable, mais elles font un peu marche arrière aujourd'hui. On note quand même que ces véhicules-là, finalement, ne sont pas utilisés comme ils le devraient. Très peu sont utilisés à forte dose en mode électrique. On voit même quand même pas mal de véhicules qui sont même jamais chargés. Donc évidemment ça c'est regrettable, et c'est regrettable aussi en termes de coûts, parce qu'évidemment il y a une consommation de carburant là où il devrait pas y en avoir, donc c'est compliqué. Et c'est vrai que les entreprises en reviennent, d'autant plus que voilà, d'un point de vue opérationnel, ces véhicules donnent pas forcément toujours entière satisfaction. Finalement, l'autonomie, y compris avec le carburant, est plus faible que les véhicules qui remplaçaient, etc. Et en termes de décarbonation, c'est du coup pas forcément une bonne solution. Hein. Pour une entreprise qui suit ses indicateurs RSE avec précision, clairement le bilan des hybrides n'est pas satisfaisant par rapport au diesel. Hein. On arrive plus souvent avec une augmentation du coup des taux de CO2 réels. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est là que l'électrique 100% peut rentrer comme une solution.
Le gouvernement vient de supprimer la prime écologique de 3 000 euros pour les entreprises pour leur basculement sur l'électrique. C'est pas une très bonne nouvelle ni pour les entreprises ni pour des prestataires comme vous qui aident les entreprises à aller vers l'électrique, non ?
Ouais, nous, ça nous empêchera pas de travailler. Non, le je pense que le vrai enjeu, il est en termes de perception. Réellement, quand on met les chiffres bout à bout, l'impact de la disparition du bonus, qui est limité aux véhicules de tourisme, hein, les véhicules utilitaires disposent toujours d'un bonus de 3 000 euros. En fait, l'impact de la disparition de ce bonus n'est pas si énorme quand on regarde les choses en TCO. Alors le TCO, qu'est-ce que c'est ? C'est le coût total de détention. C'est une notion qui est vraiment importante dans nos projets. C'est très souvent le point de bascule. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder juste le coût de location ou le coût d'achat d'un véhicule, on va regarder son coût complet. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, voilà, le bonus n'est pas forcément le déterminant dans cette histoire. Donc, mais par contre, en termes d'impact médiatique, c'est effectivement pas une bonne chose. Je pense que ça s'est fait de manière trop brutale. L'État accompagne par ailleurs les entreprises avec des mesures fiscales qui sont très intéressantes, donc c'est pas le sujet.
Et du coup, le TCO, là, le coût total d'utilisation, donc le total cost of ownership, c'est vraiment pour vous l'argument massue, c'est-à-dire c'est ça qui vous aide, qui va vous aider à convaincre vos clients de passer à l'électrique.
Bah, on le fait systématiquement parce qu'effectivement, il est beaucoup plus facile de faire passer ce type de projet quand on met en avant des économies, et c'est vraiment le cas. Je vous donne un exemple. Si on bascule un véhicule, typiquement, on a énormément de flottes de commerciaux qui utilisent par exemple des SUV de moyenne gamme, type 3008 et équivalent. Quand on les bascule vers des véhicules 100% électriques, on fait des économies qui sont très souvent de l'ordre de 10 ou 15% facilement sur le coût total de détention. Ça représente des économies de l'ordre de 1 000 à 2 000 euros par an par véhicule. Donc c'est vraiment significatif. Donc évidemment, c'est beaucoup plus encourageant une fois qu'on a mis ça en avant.
C'est le fait, dans ces économies, on a quoi ? On a évidemment moins de consommation, enfin l'électricité, la consommation d'électricité est moins chère que la consommation d'essence, mais c'est aussi peut-être tout simplement la taxe sur le véhicule société qui n'existe pas sur les voitures électriques.
Alors évidemment, c'est le coût de l'énergie en premier lieu. Et je dis le coût de l'énergie, très souvent on réintègre aussi dedans le coût des infrastructures pour l'électrique, hein, pour montrer qu'il n'y a pas un biais de ce côté-là, parce que c'est des investissements qui sont parfois significatifs. Ouais. C'est aussi le coût de la maintenance, hein, qui est diminué. Il y a évidemment, la fiscalité aide beaucoup, ça c'est sûr. Il y a un certain nombre de dispositifs fiscaux en dehors du bonus, etc. On a sur les avantages en nature, on a sur les amortissements non déductibles, donc c'est-à-dire qu'on va défiscaliser sur le résultat de l'entreprise avec les véhicules électriques. Enfin bref, la taxe, vous l'avez mentionné, c'est l'ancienne taxe sur les véhicules de société, etc. Voilà, tout est à l'avenant. C'est effectivement des mécanismes qui sont très incitatifs.
Vous dites que pour le moment, seul un véhicule sur neuf acheté par les entreprises est électrique. Loin derrière les particuliers, parce que les particuliers, c'est quoi ? C'est un véhicule sur cinq à peu près actuellement. Il y a des lois, hein, pour ça qui contraignent les entreprises à renouveler progressivement leur flotte par des voitures électriques.
Alors, c'est l'objectif de la LOM, hein, la loi d'orientation, ouais, sur les mobilités, qui effectivement fixait jusqu'à l'horizon 2030 une part qui va en augmentant des renouvellements annuels des véhicules de l'entreprise qui doit être couverte, ouais, avec des véhicules faibles émissions. Alors, faibles émissions aujourd'hui, pour la loi, sont à la fois des véhicules 100% électriques et des véhicules hybrides rechargeables, hydrogène, ouais, le cas échéant. Elle est, pour 2024, elle est de 20%, hein, cette part de renouvellement obligatoire. Ce qu'on constate malheureusement, c'est qu'énormément d'entreprises ne respectent pas cette obligation et il n'y a pas de sanctions en fait qui sont aujourd'hui en place, hein, pour encadrer ces obligations. D'accord. Donc effectivement, voilà, c'est le résultat est que on est globalement sur une pénétration des véhicules électriques qui est insuffisante au regard de ces objectifs. Alors, il y a un projet de renforcement de cette loi qui sera examiné à la fin du mois d'avril. On verra ce que ça donne avec potentiellement à la clé un cadre plus contraignant pour les entreprises.
Vous travaillez sur quel type de véhicule ? Quel est votre mix entre utilitaire et tourisme ?
On travaille effectivement sur les véhicules de tourisme, véhicules de fonction, véhicules, ouais, véhicules société, vous savez, les véhicules de place, les véhicules utilitaires, ouais, et puis on a eu un certain nombre de réflexions aussi sur des projets poids lourds. Je dirais que bon, globalement, le plus gros des projets qu'on fait aujourd'hui, en tout cas la phase qui se concrétise le plus, c'est clairement sur les véhicules de tourisme. Où on a un marché qui est quand même beaucoup plus mature, etc. Sur les véhicules utilitaires, ça arrive. On a des très beaux produits là qui arrivent ces derniers mois sur l'année 2024. Il y a une compatibilité qui est de plus en plus forte, hein, entre les usages utilitaires et puis les gammes qui sont disponibles sur le marché. Bon, on a développé, nous, une méthodologie spécifique, justement, pour démontrer, sans réaliser de tests en conditions réelles, que l'autonomie des véhicules utilitaires était compatible avec les usages. Mais c'est vrai que, voilà, pour les entreprises, c'est souvent quand même plus compliqué de réaliser cette bascule.
Pour un commercial, par exemple, pour des flottes de voitures, pour des équipes de commerciaux qui font beaucoup de kilomètres dans la journée, qui sont souvent un petit peu dans le rush entre plusieurs rendez-vous, c'est pas un gros point de friction, ça, par rapport à vos clients. Est-ce que vous arrivez à convaincre un commercial qui vous dit « Ouais, mais moi, avec mon diesel, j'ai 900 km d'autonomie, et avec l'électrique, je vais être obligé de m'arrêter toutes les deux heures. » Vous arrivez à les convaincre? C'est beaucoup de pédagogie, de la formation?
ça nécessite clairement un certain effort. C'est vrai que bon, les flottes de commerciaux, hein, c'est effectivement ce qu'on observe aussi, c'est souvent les plus gros rouleurs dans l'entreprise. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, les usages sont pas toujours ceux qui sont perçus, c'est-à-dire que un très gros kilométrage annuel ne veut pas forcément dire que on a un très fort kilométrage quotidien. Très souvent, le profil de ces équipes-là, sont des déplacements très fréquents, mais en fait, les gens qui traversent la France une ou plusieurs fois par semaine sont très rares. Et d'ailleurs, très souvent, la problématique sur ces profils-là, elle est plus d'ordre organisationnel réellement que d'ordre énergétique. Donc voilà, donc il faut arriver à faire comprendre ça, c'est qu'effectivement, l'autonomie du véhicule va être suffisante pour effectuer sans recharge une proportion très élevée des déplacements. Et s'il y a recharge, c'est des recharges qui sont finalement assez courtes, qui très souvent peuvent se faire en temps masqué, etc. C'est vraiment ça le travail qu'on doit effectuer, aussi bien au niveau des équipes managériales effectivement des équipes concernées.
Vous avez vu récemment cette information qui disait que Tesla sortait une version société de la Model Y avec deux places. Vous avez déjà de la demande sur ce type de voiture, par exemple ? Qu'il y a un marché ?
Même avant l'annonce de Tesla, hein, finalement, enfin, c'est une pratique assez commune, hein, de convertir des véhicules de tourisme en véhicules utilitaires. Donc, nous, c'est effectivement quelque chose qu'on utilise. Et c'est vrai que même certains usages qui étaient couverts au préalable par un véhicule camionnette, de temps en temps, nous, on les a basculés en véhicules de tourisme transformés de place, justement parce que l'autonomie est meilleure quand les capacités d'emport ne sont pas forcément le point saillant, ça marche très bien.
Alors, vous l'avez mentionné tout à l'heure rapidement, je trouve ça intéressant. Vous avez dit que vous pouviez aller éventuellement au-delà du fait de proposer la conversion des flottes en voitures électriques, mais aussi de proposer d'autres solutions de mobilité durable aux entreprises. Vous avez des exemples ? Vous leur dites quoi ? Vous leur dites de rouler en trottinette ?
Bon, ça, c'est un peu la caricature, mais effectivement, il y a quand même, je pense que ce qui ressort, c'est qu'il y a une demande pour d'autres solutions de mobilité, y compris au sein des effectifs des collaborateurs. Le véhicule, je parle typiquement du véhicule de fonction. Le véhicule de fonction, c'est quand même globalement imposé comme une solution de rémunération qui est peu chargée en termes de charge sociale. Et finalement, dans certaines entreprises, continue à être attribué un peu par inertie, mais parfois en décalage avec les attentes des collaborateurs. Hein. Si je prends l'exemple de collaborateurs qui résident dans une grande agglomération comme Paris, par exemple, le véhicule ne va pas du tout résoudre leur besoin de mobilité au quotidien. Ça va plutôt être un poids parce qu'ils vont devoir le stationner, etc., pour finalement l'utiliser quelques fois dans l'année. Donc, voilà, c'est potentiellement une rémunération qui pourrait leur être attribuée sous une autre forme, avec des moyens qui répondent mieux à leur mobilité. Alors, on a une solution, par exemple, aujourd'hui, qui est très intéressante, c'est le crédit mobilité. C'est-à-dire que c'est un budget qui est alloué par l'entreprise aux collaborateurs pour sa mobilité. Le cadre fiscal n'est pas complètement stabilisé, mais globalement, l'idée, c'est de l'aligner sur la fiscalité du véhicule. Donc, c'est très intéressant à la fois pour l'entreprise et le collaborateur.
Très intéressant. Alors, ma question était certes caricaturale, mais en fait, on sait qu'aujourd'hui, des entreprises incitent, par exemple, leurs collaborateurs, c'est pas forcément le même typologie de collaborateurs, mais des collaborateurs à venir sur le lieu de travail en vélo et les aident financièrement pour cela. Est-ce que ça fait partie de votre palette de propositions, de prestations ?
Complètement. Et puis, j'ai mentionné tout à l'heure Odyssée, qui effectivement met en place des plans de mobilité employés en entreprise. Ça, c'est une obligation pour une majorité d'entreprises aujourd'hui, justement, d'étudier, d'organiser la mobilité de leurs collaborateurs. Là, on dépasse le cadre des flottes, hein, c'est vraiment la mobilité de l'ensemble des collaborateurs. Le point dur, en général, c'est la mobilité domicile-travail. Et effectivement, ça nécessite une réflexion d'ensemble pour mettre en place des solutions qui soient harmonieuses, qui fonctionnent bien, éventuellement pour accompagner aussi les collaborateurs. Hein, très souvent, en fait, le vélo possède un potentiel qui est parfois un peu sous-évalué aussi par par les collaborateurs eux-mêmes. On n'est pas toujours conscient des trajets qu'on peut emprunter de manière sécurisée pour aller au travail. Et puis, il faut aussi essayer, commencer par des utilisateurs qui vont être un peu des pilotes. Ça, c'est vrai sur l'ensemble de toutes ces démarches. Commencer petit, et puis petit à petit, les coéquipiers se rendent compte que finalement, ça marche au quotidien, etc. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à convaincre l'ensemble des équipes petit à petit.
Très bien. Sébastien Pinault, j'ai une dernière question à vous poser que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique ?
Oui, absolument. Et effectivement, avec pas mal de kilomètres à mon actif, y compris les grandes vacances où on a effectué dans les dernières années beaucoup de kilomètres avec les enfants sur des très longues distances. Donc je peux témoigner que ça fonctionne. Et puis en plus, on est testeur aussi hein, des solutions qu'on préconise, c'est-à-dire que on teste de nombreux véhicules qui sont mis sur le marché pour bien connaître leur spécificité technique.
D'accord.
Et puis être capable de les recommander, voilà, en connaissance de cause.
Vous avez des accords un peu avec les constructeurs qui vous permettent de bénéficier de voitures du parc pour pouvoir les essayer et en faire éventuellement
absolument.
Dans vos offres.
Ouais. Les essayer, et puis du coup, on publie en général nos essais, donc je vous invite à nous suivre sur LinkedIn.
Très bien, eh bien merci beaucoup Sébastien. Je rappelle que vous êtes cofondateur de The Blue Way, une société dont la mission est d'aider les entreprises à renouveler leur flotte de véhicules par des véhicules électriques. Merci beaucoup.